crise écologique, scandale des élevages industriels, bien-être animal, impact sur la santé. Depuis quelques années, une prise de conscience semble se développer pour de plus en plus de consommateurs dans leur rapport à la viande. Des changements qui commencent à opérer dans nos sociétés, pourtant culturellement basées sur la chasse et l'alimentation carnivore. Aujourd'hui, manger de la viande suscite de nombreux débats et il est donc intéressant dans ce contexte de comprendre ce qui nous lie à cette humanité carnivore. C'est l'objet de notre Tête au carré avec vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, le suivi des anciennes mines d'uranium.
Oui, avec de nouvelles données qui devraient faire réfléchir les chercheurs chargés de surveiller ces sites, l'uranium pourrait persister dans les sols et dans les eaux même après une curation. On en discute avec le géochimiste Arnaud Martin-Garin.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy consacrée aujourd'hui au grand mathématicien Donald Trump. Stéphanie Texier réalise cette Tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre de Certaine.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'humanité carnivore, dossier donc de l'émission dans quelques instants avec mes invités, la philosophe Florence Burga et l'ingénieur agronome Éric Birlouez. Bonjour à
bonjour
vous deux.
Mathieu Vidard.
Bienvenue. Florence Burga, est-ce que l'humanité serait capable aujourd'hui vraiment de se passer de viande? Je parle bien de l'humanité. Hein.
D'un point de vue technique, bien sûr. Hein. La thèse que je défends, c'est que l'obstacle est ailleurs. Voilà.
Ouais. Éric Birlouez, pourquoi la viande n'est pas un aliment tout à fait comme les autres alors, hein.
La viande n'est pas du tout un aliment comme les autres. La preuve en est qu'on se pose même de plus en plus la question de savoir si c'est un aliment, s'il convient d'en manger ou pas.
Question qu'on va vous poser dans un instant et dialogue avec les auditeurs qui nous rejoignent pour ce dossier sur franceinter.fr. L'uranium présent dans les anciens sites miniers pourrait interagir avec la matière organique et les eaux souterraines, un problème de gestion donc aujourd'hui à la une de la science.
La chasse à l'uranium est déclenchée. Le commissariat à l'énergie atomique se porte en acheteur de tout minerai d'uranium découvert en France. Une fièvre a saisi les foules et le compteur de Gégère, passé aux mains des camelots, va devenir aussi banal que le stylo à billes et la note du percepteur.
L'uranium de poche, voici ce petit appareil qui vous permettra de trouver l'uranium.
Voilà une archive du journal télévisé de 1956, la dernière mine d'uranium française fermée en 2001. Aujourd'hui, les 284 anciens sites d'extraction qui sont surveillés de très près. Une découverte faite par des chimistes américains et publiée cette semaine pourrait en effet remettre en cause certains protocoles actuellement utilisés dans notre pays. Bonjour Arnaud Martin-Garin.
Bonjour.
Vous êtes géochimiste et ingénieur d'études à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous êtes en direct avec nous depuis Cadarache. Alors l'uranium, cet élément radioactif que la France a exploité pendant près de 50 ans, pourquoi est-ce qu'il faut le surveiller de près et pour combien de temps encore?
Alors c'est un élément qui nous préoccupe évidemment, comme beaucoup d'autres, dans le cadre de la gestion et de l'accompagnement du post-mine en fait. C'est un élément qui est particulièrement étudier et son devenir nous préoccupe énormément pour pouvoir répondre et soutenir finalement l'effort global de l'État français pour accompagner la gestion de ces anciens sites miniers là.
Quelles sont les solutions les plus courantes adoptées dans les anciennes mines françaises pour contenir cet uranium?
Alors il y a autant de solutions que de configurations on va dire, mais
les plus courantes.
Actuellement les principales concernent principalement la gestion des effluents, l'interposition d'un certain nombre de barrières qui permettent d'éviter la dispersion de cet élément à l'échelle de l'environnement et en tout cas à l'extérieur des enceintes d'emprise de ces anciens sites miniers.
Quelle est la durée de vie alors de l'uranium quand même?
Alors c'est un élément qui a une durée de vie énormissime, hein, de plusieurs milliards d'années. Donc c'est un élément qui nous survivra, bien évidemment.
Alors la recherche dont on parle, faite par des chercheurs de Stanford, concerne l'interaction entre l'uranium et le milieu dans lequel il se trouve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils ont découvert en quelques mots simples?
Ah oui, tout à fait. Donc c'est une très jolie étude donc qui permet en fait de caractériser la nature de l'uranium dans un milieu qui est un milieu simplifié, hein, issu d'une étude de laboratoire. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de s'intéresser à la forme chimique sous laquelle cet uranium se trouve dans ces sédiments, afin de pouvoir prédire finalement quel pourrait être son comportement et les propriétés associées à cette spéciation, donc en lien avec ces formes physico-chimiques.
Quelles sont du coup les différentes formes dans lesquelles peut se trouver cet uranium?
Alors pour faire très très simple, en fait l'uranium c'est un élément qui est très sensible à la présence ou à l'absence d'oxygène. Et si on veut catégoriser de façon relativement simpliste le comportement de cet uranium, on a tendance à classer les espèces d'uranium à la valence plus 6, donc c'est un état d'oxydoréduction. Donc à cet état d'oxydoréduction, cet élément est plus mobile, on va dire, et plus favorable à une dispersion ou une redistribution au sein des différentes matrices de l'environnement. Et à côté de ça, en fait, existent également des formes sous la valence plus 4 qui ont tendance à être un peu plus stables, un peu plus neutres et avec un caractère plutôt insoluble, donc fixé sous la forme de solide.
Alors, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Vous me dites si je me trompe. D'après ce que j'ai compris, l'uranium peut être soit sous une forme cristalline, qui est plutôt non soluble, soit sous une forme liée à la matière organique. Qu'est-ce que ça change vraiment pour un site de traitement ?
Alors, l'idée, encore une fois, c'est de caractériser ces différentes formes pour pouvoir y associer des caractéristiques et notamment de pouvoir en déduire des comportements dans différents environnements physico-chimiques. Alors, les formes plus 4 dont on parle, en fait, sont à la fois composées de minéraux très stables, très peu solubles, donc qui vont contribuer à limiter énormément les concentrations de l'uranium en solution. Mais ces formes plus 4 sont également potentiellement constituées de d'autres spéciations, donc d'autres formes physico-chimiques, notamment en lien avec ce que l'équipe a déterminé dans le cadre de cet article-là, donc des formes associées avec des phases porteuses type matière organique, qui sont a priori des phases légèrement plus solubilisables, en tout cas plus susceptibles d'être remobilisées en cas de modification de l'environnement dans lequel elles se trouvent.
Alors justement, Arnaud Martin-Garin, pour parler concrètement, qu'est-ce que cette étude peut nous apprendre justement des sites qui en France sont concernés justement par la présence d'uranium ?
Alors en fait, cette étude, elle n'est pas isolée, hein, bien loin de là. Elle fait même écho à un certain nombre de travaux qui se déroulent sur notre territoire, à l'échelle de l'IRSN ou d'ailleurs. Hein. Alors ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que il existe plein de natures d'espèces possibles qui concernent cet élément, l'uranium, et que manifestement, chacune d'elles n'ont pas la même stabilité dans le temps ou dans l'espace. Et l'idée, en fait, c'est de mettre ces propriétés, cette nature, ces natures d'espèces, en regard des solutions de gestion qui peuvent être envisagées d'un site pour un site minier ou même en aval de ces sites, dans la mesure où ces sites ont également contribué à un léger marquage de l'environnement en aval.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller sur chaque site pour voir sous quelle forme est l'uranium, pour voir si certains sites peuvent être potentiellement dangereux ?
Alors en fait, on déduit de ces études très spécifiques des comportements globaux qu'on essaie de croiser avec des natures, des environnements particuliers. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser cette donnée-là pour faire des extrapolations. Donc en fonction des configurations de ces sites. Donc en l'occurrence, dans le cadre de cet article, il s'agit d'un échantillon qui représente ce qui peut se passer au fond d'un lac, donc dans un milieu qui est très peu oxygéné, donc en présence de matière organique. L'idée, c'est de croiser cette caractérisation spécifique à des situations qui existent par ailleurs et qui font référence à ce qu'on sait des différents sites miniers français et puis des environnements associés à ces sites.
Beaucoup de mines. Très rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la une, beaucoup de mines en France sont noyées dans des lacs maintenant ?
Alors, les mines en tant que telles ne sont pas forcément toutes noyées dans les lacs. Par contre, il y a sur les territoires des mines peut-être des espaces en noyer. Par contre, il existe un certain nombre de configurations. Donc, en aval des mines, en fait, au sortir de ces territoires dont l'emprise est plus ou moins importante. Hein. Mais par contre, en aval de ces mines, il existe des exutoires plutôt aqueux et potentiellement des lacs qui sont, eux, pour le coup, dans le cadre du domaine public. Et les solutions de... Le suivi de ces environnements-là nécessite également à ce qu'on s'intéresse à la nature physico-chimique de cet élément et qu'on puisse extrapoler, encore une fois, l'évolution de ces environnements en fonction d'une solution ou d'une autre de gestion de ces espaces-là.
Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières, Arnaud Martin-Garin, sur les 284, hein, c'est ça, anciens sites justement d'extraction d'uranium ou pas ?
Alors, des inquiétudes particulières, non. Par contre, il y a une vigilance qui est effective, ça c'est certain. Et il y a un accompagnement des pouvoirs publics pour justement être sûr que les critères et les normes sur lesquelles on s'appuie actuellement pour diagnostiquer du non-impact ou de l'impact de ces situations-là sont les bons et nous permettre d'être rassurés par rapport, encore une fois, à la gestion de façon pérenne de ces sites dans le temps.
Voilà, avec un élément, on le disait tout à l'heure, d'une durée de vie de plus de 4 milliards d'années. Donc effectivement, il y a encore du travail pour surveiller tout ça de très près. Merci Arnaud Martin-Garin pour vos explications. Et puis Axel, à demain pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une puce dans la main pour remplacer les badges. C'est le choix qu'ont fait 8 employés d'une entreprise belge. Selon un reportage de la RTBF, pour le prix de 100 euros, ces hommes se sont injectés une puce dite de radio-identification de la taille d'un grain de riz qui leur permet d'ouvrir la porte d'entrée et de déverrouiller leur ordinateur. L'idée aurait germé après plusieurs pertes de badges parmi les employés. Un nouveau trou noir détecté dans notre galaxie en s'intéressant aux vestiges d'une supernova éloignée de 10 000 années-lumière. Des chercheurs japonais ont eu la surprise de découvrir un trou noir lors de leurs observations. Les astrophysiciens ont constaté que la vitesse d'expansion du nuage de gaz était beaucoup trop élevée au vu de son environnement. Selon les scientifiques, seules deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène, celle d'un trou noir statique et celle d'un trou noir en mouvement. Pour trancher, il compte mener des observations avec ALMA, le radiotélescope géant du désert d'Atacama au Chili. Et puis Gecolepis megalepis, c'est le nom de la nouvelle espèce de la famille des geckos, découverte à Madagascar par une équipe de l'université de Munich. Ce reptile se distingue de ses congénères par ses écailles particulièrement larges et la très rapide régénérescence de sa peau. En effet, en cas de capture par un prédateur, les geckos se séparent de leur peau et de leur écaille pour fuir, ne laissant à l'agresseur que leur mue. Allez, l'humanité carnivore, c'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré.
Keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the ones I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time. Tell me it's time. My own double, looking back, saying might be trouble. Can't say that I haven't been trying. Oh, you put me on the midnight train. Every car's running through my brain. Just the ones I wanna hear that something is mine.
It's time, Nick Waterhouse.
On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin.
On a vendu un beau matin. On a vendu. avec ce type.
Où sont les poulards? J'ai faim.
Pardon, vous allez prendre qui?
Jacquard, le gueux. Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Vous avez encore faim? Ah, parce que vous êtes goinfré?
Voilà, le menu des visiteurs et celui de l'émission cet après-midi pour parler de la place de la viande dans notre culture alimentaire. Dossier avec les invités Florence Burga et Eric Birlouez. Florence Burga, vous êtes philosophe, directeur de recherche à l'INRA et vous publiez au Seuil l'humanité carnivore. Eric Birlouez, vous êtes ingénieur agronome, spécialiste de l'histoire de l'alimentation et de la sociologie des comportements alimentaires. Et on signale la sortie en 2014 de ce livre « Faut-il arrêter la viande ?» aux éditions Le Muscadier. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Florence Burga, est-ce que vous avez d'abord le sentiment que la question de la viande dans notre alimentation a pris une autre tournure ces toutes dernières années là?
Alors on pourrait dire ces tout derniers mois parce que, ouais, en effet, je pense que les vidéos de l'association L214 ont vraiment marqué une rupture.
Hein. Oui.
Vraiment une véritable rupture. Jusqu'à présent, tous les gens qui mangent de la viande pouvaient laisser dans l'ombre, dans une espèce d'arrière-plan de leur conscience, ce qui avait pu se passer avant. Tout ça était très flou. Et là, tout à coup, plus personne ne peut dire « je ne me rends pas compte, je n'ai pas conscience du processus d'engendrement de la viande ».
Ouais. Donc, c'est une approche française qui change ou est-ce qu'on peut aussi l'observer à l'échelle de la planète?
Je crois que ce mouvement, parce que là on parle de la viande, mais c'est la question des animaux qui est derrière. C'est-à-dire, comme le disait Eric Birlouez tout à l'heure, la viande, est-ce que les animaux sont des aliments? Donc il y a une prise de conscience mondiale, mm-hmm. Le mouvement de défense des animaux se développe dans tous les pays, se professionnalise. Et donc la question de la viande aujourd'hui devient la question du traitement des animaux et de la légitimité, ouais, à les considérer comme des aliments.
Alors Eric Birlouez, pour compléter, hein, qu'est-ce qui fait justement que la question de consommation de la viande aujourd'hui se pose plus tout à fait dans les mêmes termes alors, hein?
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors bien sûr il y a eu, comme on vient de le dire, une rupture il y a quelques mois, mais il faut bien voir que la question de la consommation de la viande a toujours été une question qui s'est posée à un moment ou un autre de notre histoire. On, ouais, sait que dans l'Antiquité il y avait des philosophes qui prônaient l'abolition de la consommation de la viande. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, il y a, à mon avis, deux phases. Mmh. En France, à partir de 1980, très précisément, on commence à voir une baisse de la diminution de la viande rouge. Pas du tout, comme on aurait pu le penser, chez les pauvres, qui n'ont plus le pouvoir d'achat suffisant, mais au contraire, chez les personnes aisées, les catégories socio-professionnelles supérieures, comme on dit. Non pas donc pour des raisons de prix, mais parce qu'il y a des questions qui commencent à se poser. Mais à l'époque, ce ne sont pas tellement encore des questions de statut de l'animal, ce sont des questions de santé. Mmh. Est-ce que manger de la viande en grande quantité est aussi bon que ça pour la santé? On voit pointer, mais encore timidement, les questions d'environnement. Il y a aussi la question que la viande, c'est très important, qui était un acquis social, eh bien devient pour les classes aisées moins attractive, puisque tout le monde, pendant les Trente Glorieuses, peuvent manger de la viande. Ce qui est intéressant depuis quelques mois, c'est que, en plus des questions de santé qui n'ont pas disparu, des questions d'environnement, des questions de sécurité alimentaire, il y a cette question du rapport à l'animal, et je suis d'accord avec ce que dit Florence, c'est que les vidéos qui ont été diffusées ont entraîner une prise de conscience. Ce qui m'étonne pour autant, c'est que, en tout cas, les Français n'ont pas basculé massivement, oui, pour autant dans le végétarisme, alors que les vidéos, ouais, étaient très...
C'est ça, très marquantes.
Très, hein, marquantes.
Effectivement. Quels sont les chiffres aujourd'hui? On a des études à peu près précises sur le nombre de personnes végétariennes ou véganes, ce qui est plus radical.
Alors, il y a une étude un sondage qui a été fait très très récemment, il y a à peine une semaine, qui indique que dans la population française, adulte, qu'il y aurait 4% de végétariens, ouais, 4% de véganes. Alors ça, c'est un chiffre qui m'a étonné. Hein. Végane, c'est on est...
Aucun produit animal. Hein.
Aucun produit animal.
Et dans sa façon,
exactement,
de vivre aussi.
Ça n'est, hein, pas seulement on ne consomme aucun produit animal, y compris du miel, qui est aussi un produit animal, mais on ne porte pas de fourrure,
de cuir,
de laine, de foulard de soie sauvage, mmh, etc. Alors 4%, ça me paraît beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'indique cette enquête. Et puis, il y a... on les regroupe sous le terme de flexitariens, qui sont les intermittents de la consommation de viande, en quelque sorte. Et là, ces gens-là sont de plus en plus nombreux. On ne les a pas encore, mesurés, parce que, voilà, c'est difficile de savoir que si on est ou pas flexitarien, c'est une réduction de la consommation de viande. Souvent, c'est en semaine, on ne mange plus de viande, mais le week-end ou quand on sort au restaurant, on invite des amis, eh bien on continue à manger de la viande. Mais la tendance, et à mon avis c'est une tendance de fond, elle est à la diminution de la consommation de viande en France et dans les pays développés, mais pas dans les pays émergents.
Florence Burga, ce message de Christian qui nous dit ceci: à partir du moment où nous savons le prix de ce morceau de viande, comment pouvons-nous défendre la consommation et la production de la viande? Et il fait allusion évidemment à la pollution, à la souffrance animale, à la déforestation, au problème de l'eau. C'est une question aussi que se posent beaucoup justement ces nouveaux consommateurs, là, les flexitariens par exemple.
Alors oui, je pense que les flexitariens sont des personnes qui sont dans une catégorie intermédiaire, qui sont en chemin. Difficile à cerner parce que à partir de quel degré on est flexitarien. La question de Christian est intéressante, c'est-à-dire, en effet, la viande n'a plus rien aujourd'hui pour sa défense, d'une certaine manière, et cependant, on voit bien qu'il y a une résistance de la majorité à abandonner ce régime carné, qui pour moi renvoie, si vous voulez, à une question identitaire. L'humanité se pense elle-même contre les animaux, et évidemment le fait de les manger a une portée tout à fait significative sur sa mainmise, mais je ne veux pas anticiper. Ouais. Sur
alors justement, cette humanité, est-ce qu'au fond elle a toujours été carnivore ou pas? Est-ce qu'elle a toujours chassé, consommé de la viande, crue puis cuite ensuite?
Oui. Alors la question doit toujours être historicisée, hein, rapportée à des contextes géographiques.
Et aux traces que nous avons évidemment de ces comportements du passé.
Parce que durant tout la très longue période du Paléolithique, il ne reste que des vestiges de gros animaux qui auraient été chassés, ce qui fait que les paléoanthropologues se sont beaucoup focalisés sur ces vestiges, et aujourd'hui on revient beaucoup de l'image de l'homme préhistorique chasseur, parce qu'il ne reste pas de vestiges de l'alimentation végétale, etc. Donc aujourd'hui la communauté des préhistoriens s'accorde plutôt à voir dans l'homme préhistorique un homme opportuniste quant à son alimentation, qui charognait beaucoup les animaux chassés par d'autres animaux, qui se nourrissaient de cueillettes, de petits animaux, d'escargots, d'œufs, etc.
Mais alors qu'est-ce que ça nous dit finalement, que l'alimentation carnée est plutôt quelque chose de très récent dans l'histoire humaine?
Alors l'hyperconsommation carnée, qui est la nôtre aujourd'hui, est extrêmement récente. Ouais. Ensuite, vous avez des périodes d'alimentation pratiquement végétarienne, des populations hypercarnivores. On a vraiment, l'humanité a essayé vraiment toutes les palettes du régime alimentaire.
Éric Berlouez, sur cette histoire et ce rapport à la consommation de la viande.
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de parler du régime alimentaire des hommes préhistoriques, parce que ça a duré 2,5 millions d'années, la préhistoire, et que, en fonction des latitudes, on avait accès à une ressource qui pouvait être plutôt végétale ou au contraire plutôt animale. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que, je trouve, lorsque l'homme se met à cultiver la terre et à élever des animaux, donc il y a 11 000 ans, là on voit la viande devenir la nourriture d'une élite, c'est-à-dire la population augmentant dans les villages, eh bien, pour nourrir cette population, il est beaucoup plus rentable de manger des céréales, des légumes secs. Et la viande, qui est plus coûteuse à produire, parce qu'il y a d'une certaine manière un gaspillage, entre guillemets, des calories végétales pour les transformer en calories animales, cette viande devient réservée à une élite. Et ça explique en partie l'attrait qu'a eu la viande tout au long du Moyen-Âge, et encore aujourd'hui chez les populations des pays pauvres et des pays émergents, c'est que la viande, symboliquement, c'est l'aliment du riche. Et donc la viande a ceci, je trouve, d'intéressant, c'est son ambivalence. C'est à la fois un aliment qui a toujours été extrêmement convoité, parce qu'il y a une dimension de plaisir, il y a une dimension nutritionnelle qu'il ne faut pas nier, et en même temps, c'est l'aliment qui a fait l'objet, sans doute le plus, d'interdits alimentaires, de tabous.
Et de marqueurs sociaux.
Et de marqueurs sociaux, et de marqueurs de richesse, de statut, de pouvoir, de prestige.
Sauf qu'aujourd'hui, Florence Burga, on se rend compte qu'effectivement, tous ces éléments de valorisation de la viande sont en train de décliner petit à petit.
Hein. Oui, c'est ce qui explique aussi ce changement de rapport. Oui, oui. Alors j'ajouterais à ce que dit Eric que c'est l'aliment, pardon, l'aliment aussi qui a fait l'objet, pas seulement des tabous et des interdits, mais d'un rejet moral. Ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure en parlant de l'Antiquité, oui. Puisque dès l'Antiquité, vraiment, le débat est posé, et donc bien avant l'élevage industriel.
Oui. Et d'ailleurs, les pratiques, hein, vous le dites, déjà pour la boucherie chez les Romains, par exemple, hein, où le traitement des animaux, le bien-être animal, il y a aussi beaucoup à dire à cette époque-là, où les animaux sont enfermés dans
exactement,
des états extrêmement
oui.
étroits.
Oui, ça, j'ai voulu porter un coup à une idée largement répandue aujourd'hui et fallacieusement exploitée, qui consiste à dire que c'est l'élevage industriel qui a inventé les techniques de contention, de gavage, de séparation des individus, etc. Non, ce sont des techniques inhérentes à l'élevage dès l'Antiquité.
Avec des poteries étroites que vous décrivez, et des cages exiguës hein, pour les petits animaux,
oui,
en particulier
oui,
chez les Romains.
Oui, ce sont vraiment les mêmes méthodes.
Ouais. Une question de Paul, le perfectionnement des armes, l'endurance des hommes préhistoriques, donc la chasse, n'explique-t-il pas justement la consommation accrue de viande ?
Accrue aujourd'hui, à notre époque. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir que beaucoup de gens aujourd'hui justifient l'alimentation carnée en se référant au modèle de l'homme paléolithique.
Oui.
Comme si l'homme actuel était le même que ces espèces dominidées, puisqu'il y a eu plusieurs humanités, ne l'oublions pas. Et puis, les armes n'apparaissent qu'au paléolithique supérieur.
Et ça a pu justement changer la façon
alors, ce qui est très
dont
compliqué,
on a consommé la viande ou pas ?
Ce qui est très compliqué concernant la chasse, c'est de voir une continuité empirique, c'est-à-dire la chasse a continué. Elle avait pour objet au début de satisfaire à des besoins absolument vitaux. Et puis, alors que ces besoins, notamment en alimentation carnée, sont apportés autrement, la chasse de loisirs se développe. Et on peut penser qu'elle prend une autre signification, alors même qu'elle se poursuit selon des techniques identiques. Ça, c'est un point assez compliqué.
Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer cette humanité carnivore avec les messages des auditeurs sur le site de La Tête au Carré.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Machine.
à une semaine de la Saint-Valentin, l'amour à la machine, Alain Souchon.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, avec Florence Burga et Éric Bialouez pour parler de l'humanité carnivore. Alors, c'est un livre que vous publiez, Florence Burga, aux éditions du Seuil. Et puis, Éric Bialouez, faut-il arrêter la viande? C'était en 2014. Beaucoup de réactions, de questions des auditeurs comme Pierre, qui nous dit ceci. La théorie de votre invité est bien belle, mais pas plus que l'alcool n'est nécessaire à notre survie. Pourquoi ne pas concevoir que pour certains, manger de la viande relève simplement du plaisir gustatif? Éric Bialouez, pour lui répondre.
Oui, alors, effectivement, en tout cas, encore pour beaucoup de Français, la viande est une source de plaisir et je pense qu'elle l'était à l'origine pour des raisons nutritionnelles. On sait que la viande est riche en protéines et ces protéines, elles sont satiétogènes. C'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure nos ancêtres de la préhistoire, donc on peut imaginer que lorsqu'ils avaient de la viande, eh bien ils avaient un sentiment de une sensation de rassasiement plus rapide, plus durable, plus intense que s'ils mangeaient des végétaux. Et puis la viande contient du gras, et le gras, on sait que c'est le vecteur des molécules aromatiques. Et puis, il y a, au-delà du plaisir, il y a le caractère énergétique qu'avait la viande, sa richesse en nutriments. Alors, encore une fois, c'est pas du tout un aliment indispensable. D'ailleurs, aucun aliment n'est indispensable, sauf le lait pour le nouveau-né. Mais c'est un aliment qui a été synonyme de plaisir, et on le disait tout à l'heure, synonyme, à partir d'un moment, d'un certain moment, de prestige, de puissance, de vigueur sexuelle, de force musculaire. Et ça, c'est une image qui n'a pas disparu chez beaucoup de nos concitoyens qui pensent que consommer de la viande est absolument nécessaire si l'on veut avoir des muscles. Ce que ne dit pas, bien sûr, la science. Mais là, on est dans ce qu'on appelle en anthropologie le principe d'incorporation. Manger la chair d'un animal puissant, comme un bœuf, ne peut que me donner la puissance et la force. C'est la vigueur de ce bœuf.
Patrick nous dit, que pensez-vous de la consommation de la viande qui, d'après moi, serait due à la cuisson? Donc, au feu, mangerions-nous des rôtis de porc, de la cervelle, des rognons, s'il n'y avait pas de la cuisson, Florence Burga?
Alors, je vais répondre à ça, après je reviendrai un tout petit peu sur la question précédente. Bien sûr, c'est le thème de la cuisine qui déguise la chair brute de l'animal tué. C'est l'un des passages très connus de « Si loisible de manger chair » du philosophe du premier siècle de notre ère, Plutarque. Donc, mais en même temps, il y a des cultures où on mange les animaux crus, la chair crue. Donc tout ça est vraiment très relatif. Je me permets de revenir un tout petit peu
en
arrière sur cette manière de mettre sur le même plan l'alcool et la viande. L'alcool ne présuppose pas de mettre à mort un animal. Donc on peut toujours bien sûr parler de la viande en limitant cette chose à un aliment, parler de son du plaisir gustatif, du gras, etc. Mais il y a autre chose, c'est qu'on mange un animal qui a été tué. Et est-ce que c'est pas ça aussi qu'on mange? Et cette dimension, elle est toujours mise évidemment en dehors de l'analyse.
Vous dites à quel point d'ailleurs cette responsabilité au fond de l'animal tué est extrêmement diluée aujourd'hui. Avant d'arriver dans notre assiette, il y a effectivement l'éleveur, l'agriculteur, le boucher et puis en bout de course, nous, les consommateurs.
Oui, et puis l'infrastructure scientifique, la génétique, la zootechnie, etc.
Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure, l'actualité avec la question des abattoirs et du traitement des animaux, l'association L214. Écoutons par exemple l'extrait du journal d'Inter, c'était en mars 2016.
33 salariés, seulement 3000 tonnes de viande traitées par an, c'est assez peu. Des clients exigeants comme Yves-Marie Le Bourdonnec, meilleur boucher de Paris, ou le chef étoilé Alain Ducasse. C'est pourtant dans ce petit abattoir du Pays Basque qui met en avant le bio et les labels rouges qu'ont été tournées les images. Brigitte Gauthier, une des porte-parole de l'association L214.
Les images sont atroces. On parle d'animaux qui sont mal étourdis, qui sont des animaux tout jeunes, qui viennent d'être enlevés à leur mère. L'employé se sert du crochet qui lui sert à les suspendre par une patte pour les assommer en leur tapant brutalement sur la tête. On voit aussi un agneau écartelé vivant au niveau des veaux. On voit des reprises de conscience. On les voit réagir au couteau quand les opérations de découpe commencent.
Gérard Clémenté, directeur de cet abattoir en poste depuis 40 ans, rejette lui la responsabilité sur quelques salariés.
Quand j'ai commencé à regarder la vidéo, j'étais entre pleurer et vomir. Voilà. Dans mon abattoir, ça me dégoûte. Personne n'aurait imaginé que ça pouvait se passer. Après, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez deux abrutis, si ce n'est à mettre un mec tout le temps derrière, mais on peut pas. Je suis simplement dégoûté.
Pour L214, le fait que le directeur tombe des nues est une nouvelle preuve de l'absence totale de transparence dans les abattoirs. La plainte de l'association est sur le bureau du procureur de Pau.
Voilà, Florence Burga. Et beaucoup d'évolutions déjà, hein, aussi. Le fait qu'on puisse filmer maintenant dans les abattoirs, décision très récente.
Alors, elle n'est pas encore entérinée. Je crois qu'il faut que le Sénat l'entérine. Ces vidéos ne seront accessibles qu'au directeur de l'abattoir, ouais, et à une sorte de comité d'éthique qui sera un peu un comité d'entre-soi. Ouais.
Mais quand même.
Alors,
c'est de toute façon
très important qu'il y ait un œil dans ces abattoirs, même si ces vidéos ne seront pas tellement accessibles. Oui. Mais bien sûr, toutes les avancées sont bonnes à prendre.
En tout cas, on ne peut plus dire, on ne sait pas aujourd'hui. C'est ce qu'ont révélé ces vidéos, justement.
Absolument, ça, c'est vraiment un tournant.
De ces associations. Éric Birlouez.
Oui, mais cette question, effectivement, est tout à fait importante. Et moi, je pense que c'est tout à fait indispensable de regarder ce qui se passe. Et en tout cas, c'est indigne de l'homme d'avoir des actes de cruauté à ce point envers les animaux. Est-ce que c'est aussi généralisé, ces pratiques, qu'on le dit ? Je n'en sais rien. C'est vraiment la question de fond de est-ce qu'il est légitime pour manger de la viande d'accepter de mettre à mort un animal et dans quelles conditions ? Et encore une fois, c'est une question très ancienne. C'est la question du meurtre alimentaire qu'on se posait dans l'Antiquité avec tout un tas de stratégies ou de stratagèmes plutôt pour éviter de voir cela. Donc vraiment, on a une question de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un animal, où est-ce que l'on met la frontière, si frontière il y a. Après, évidemment, chacun va y répondre à sa manière.
Ouais. Florence Burga, alors vous parlez longuement justement dans votre ouvrage de la question de la mise à mort et du sacrifice de l'animal, qui là aussi change énormément selon les cultures et les époques.
Alors, ce que je montre dans un très long chapitre, en effet, sur le sacrifice, c'est d'une part notamment que le sacrifice, ce que les anthropologues appellent le sacrifice, est en fait une pratique extrêmement banale. Mmh. Il y a dans beaucoup de cultures, dans toutes les cultures, des sacrifices qui sont soit liés à des calendriers religieux, comme par exemple à Rome, mais il y a aussi les sacrifices domestiques, parce qu'il y a la naissance d'un enfant, une nouvelle maison, etc. Donc le sacrifice est simplement la mise à mort d'animaux qui est opéré en référence à un événement ou à une divinité.
C'est le permis de tuer, au fond.
C'est le permis de tuer. Ouais. Donc je crois que le sacrifice, loin d'être l'inverse de la boucherie industrielle, est cette espèce de matrice originelle qui équivaut à la permission de tuer. Donc on a beaucoup écrit sur le soi-disant formalisme qui entoure le sacrifice, mais en réalité, quand on lit beaucoup sur cette question, et qu'on ne s'en tient pas simplement à un ou deux modèles, le grec par exemple, on s'aperçoit de la très grande banalité, et donc de l'apport très important en viande, puisqu'on a eu des comptages qui ont été faits par les historiens de Rome ou de la Grèce. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle j'attire l'attention.
Éric Birlouez, donc c'est vraiment une constante, effectivement, dans toutes les religions du monde, et quelles que soient les époques, cette question du sacrifice.
Alors oui, sacrifice, ça veut dire faire sacré, rendre sacré. C'est une manière, bien sûr, de se déculpabiliser de la mise à mort de l'animal, puisque quand on tue un animal, c'est pas pour assouvir son envie furieuse de manger de la viande, c'est pour honorer les dieux. Donc on voit bien que les hommes, depuis sans doute très longtemps, il y a eu ce malaise lié au meurtre alimentaire, lié au fait que la viande, quand on ouvre le dictionnaire, on voit la définition de la viande qui est que c'est la chair de tout animal dont l'homme se nourrit. Or, il se trouve que la chair, c'est évidemment ce dont nous-mêmes nous sommes faits, la chair, le muscle, etc. Et donc, on comprend bien qu'il ait pu y avoir un malaise lié à ce meurtre alimentaire et à l'ingestion de cet autre moi-même ou de ce quasi-semblable. Ce qui veut dire aujourd'hui, on ne peut accepter de consommer de la viande que si on fait une rupture, ce que font beaucoup de gens, me semble-t-il, encore assez nette, entre l'humanité et l'animalité. Dès lors qu'on considère qu'il n'y a pas vraiment de frontières, ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est en train de changer dans l'esprit d'un certain nombre de gens.
Justement, cette question du sacrifice animal aujourd'hui, elle pourrait aussi sensiblement évoluer, Florence Burga, vu le contexte et au fond ce qui se révèle à nous régulièrement sur
de la mise à mort. Vous voulez dire le sacrifice de la mise à mort.
Absolument.
Oui, parce que évidemment cette grande différence entre l'homme et les animaux, elle devient de plus en plus ténue, c'est-à-dire cette obsession du propre de l'homme. Moi, je ne défends pas l'idée que l'homme n'a pas de particularité. Du reste, chaque espèce a ses particularités et l'humanité a ses particularités. Mais ces animaux que nous mangeons sont des animaux que nous connaissons très bien. Ce sont des mammifères. Il est très facile de créer des liens avec eux. Donc nous voyons tout à fait quel est leur désir de persévérer dans la vie, quelles sont leurs craintes, leurs besoins, leur joie de vivre, le lien qu'ils ont les uns avec les autres, le petit avec sa mère, etc. Donc nous savons que nous commettons quelque chose, je dis le mot, de monstrueux. Tout ça pour un plaisir gustatif.
Nous écoutons Tristesse douce, Marc Gauvin, et on se retrouve juste après. La la
la. Tristesse, oh, tristesse douce, t'es une fille très ordinaire. La la la. Tu traînes ta tristesse douce comme un trésor de guerre. Rien n'arrête les refrains. Idiot, trop loin. Tu as bloqué ton cœur. Sanglot, non rien. N'arrête les refrains. Idiot. Tu traînes ta tristesse douce galerie d'un hyper. Tristesse, oh, tristesse douce, en contrat intérimaire. Mise en scène, mise en scène, mise en scène, mise en scène. Mise en scène, mise en scène, mise en scène, à toi, mise en scène.
Ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est particulier. Autrefois, les combats étaient très fréquents. Quand un guerrier mourait, transpercé par une flèche, on consommait son cadavre. Je me souviens d'avoir mangé deux doigts d'un jeune garçon. Ils avaient bien meilleur goût que du poulet, du porc. C'était sans comparaison. C'est beaucoup plus goûteux que le bœuf. C'est vraiment délicieux.
Voilà, extrait d'un documentaire Kourou, La science et la sorcellerie, qui était sorti en 2009 pour évoquer également le cannibalisme, Florence Burga, parce que vous en parlez dans cet ouvrage L'humanité carnivore.
Oui, il y a des tas de formes de cannibalisme, et ce qui m'a intéressé, c'est de dégager une forme que les anthropologues ont bien isolée, celle du cannibalisme de gourmandise. Donc pas manger les morts, ce qui est évoqué dans le cas, mais mettre en place des expéditions guerrières pour se procurer de la chair humaine, pas du tout parce qu'on n'a rien à manger, mais parce que c'est bon.
Bon, apparemment, les deux doigts de jeune garçon étaient très très bons dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Le mythe et la réalité, hein, aussi, c'est ces deux frontières que vous explorez autour des habitudes alimentaires et de la question de la viande.
Oui, c'est-à-dire qu'il est intéressant de voir que dans des mythes, des contes et des légendes, cette alimentation carnée qui pour nous semble aujourd'hui aller de soi, fait l'objet en fait d'une question de fond. Pourquoi l'humanité est-elle carnivore ? Ouais.
Éric Berlouez, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut abolir la viande, justement, parce que de plus en plus de mouvements...
Bien sûr, si on veut aller au bout de la logique, c'est ce que l'on pourrait penser, et donc abolir l'élevage. Alors moi, je pense que déjà, ce sera très difficile, et de mon point de vue, pas forcément souhaitable. Je pense qu'il peut y avoir une troisième voie entre l'abolition de la consommation de viande, et donc de l'élevage pour la viande, et évidemment la fuite en avant dont on a vu toutes les critiques qu'on pouvait lui adressé. Et je pense que quand on raisonne, il faut essayer de mettre dans la balance à la fois les bénéfices pour la société, évidemment les risques, et puis le point de vue qui a été évoqué tout à l'heure. Ne pas oublier qu'aujourd'hui sur la Terre, il y a 1,3 milliard personnes qui vivent de l'élevage, et notamment dans les pays du Sud, je pense par exemple dans les pays africains, où avoir quelques animaux, c'est à la fois l'équilibre ou un début d'équilibre de la ration alimentaire, c'est un revenu, c'est un capital, l'animal est une source de transport écologique, l'animal, par ses déjections, fertilise de la manière la plus naturelle qui soit les terres, sont des choses à prendre en considération. Évidemment, on peut aussi parler de l'aménagement du paysage, de l'herbe que seuls les animaux ruminants herbivores valorisent, et pas l'homme, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... La question est quand même complexe, même si je comprends évidemment tout à fait que l'on puisse arriver à ne plus vouloir consommer de viande. Alors, ce qui me paraît clair, c'est important que l'on réduise la consommation de viande au minimum dans nos pays développés, peut-être justement pour donner le bon exemple aux pays émergents qui, eux, encore une fois, n'ont qu'une envie, c'est de manger
absolument de
la viande.
Et justement, Florence Burga, est-ce que cette question, c'est pas simplement une question de pays riches qui ont accès depuis longtemps, de façon importante, à la viande aujourd'hui ? Quel est le point de vue ? Alors là, je m'adresse à la philosophe, mais aussi à la consommatrice, à la non-consommatrice de viande que vous êtes, puisque vous êtes végane, quand même, on peut le préciser, végétarienne depuis très longtemps, végane depuis à peu près un an, je crois. Hein. Quel est votre point de vue sur cette question de l'abolition de la viande ? Vous allez jusqu'où dans votre réflexion, Florence Burga ?
Moi, je vais effectivement, si on considère que les animaux ne sont pas là pour être mangés, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Éric Berlouez évoquait tout à l'heure, à mon avis, deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a la question de la boucherie, et puis vous évoquiez aussi l'utilisation d'animaux pour l'entretien du paysage, pour ceci, pour cela. Cela me fait penser au programme que Gandhi a essayé de mettre sur pied dans les années 40 en Inde, d'un élevage qui, au sein duquel l'abattage serait rendu économiquement absurde. Donc il réfléchissait à un modèle qui permettrait de continuer, alors lui pensait à une consommation de lait, les bouses de vache permettant de servir d'engrais à la terre, l'exploitation des animaux une fois qu'ils seraient morts, bon, peu importe ce modèle si vous voulez. Mais c'est le fait d'avoir mis en œuvre, par le raisonnement rationnel et l'imagination, des systèmes qui excluraient cette relation violente. Et je pense qu'il y a des choses à imaginer. Nous n'avons jamais réfléchi à d'autres modes de relation avec les animaux que la boucherie. Donc ça n'est pas la disparition de tous les animaux ou la boucherie. Je crois qu'il y aurait des choses à imaginer.
Sarah nous dit, d'abord elle est britannique, il est évident que la viande est très présente sur la table des ménages français. J'aimerais savoir s'il est compliqué de remplacer la viande au quotidien, si ça présente un risque pour la santé. Alors, cet apport en protéines, justement.
Cet apport en protéines, bon, c'est bien connu depuis le néolithique, en fait. Hein, de façon empirique, les hommes mangeaient l'association céréales et légumineuses. Et puis, on connaît bien sûr aujourd'hui tous les avantages que procure le tofu, le seitan. Ce sont des produits qu'on trouve de plus en plus facilement. Mais enfin, il faut aller dans les magasins bio qui proposent des substituts de viande de plus en plus nombreux et divers.
Éric Berlouez ? Ces alternatives, elles sont nombreuses aujourd'hui?
Oui, en tout cas, elles se développent clairement. Alors, on voit aussi des gens qui deviennent végétariens et qui n'ont pas du tout, encore une fois, par dégoût de la viande et qui vont rechercher ces produits qui se développent, qu'on appelle les simili-carnés. C'est-à-dire, je vais consommer des choses qui ont l'aspect du steak, de la saucisse, mais qui sont des protéines végétales.
Donc c'est un marché en plein développement.
Oui, oui. Aujourd'hui. En tout cas, voilà, ça reste très très modeste, mais il y a un essor certain.
En tout cas, cette réflexion, on peut la poursuivre en lisant vos ouvrages respectifs. L'humanité carnivore, Florence Buria, qui vient de paraître. C'est oui. Donc aux éditions du Seuil, avec cette somme de travail que vous avez réalisé, et Éric Berlouez en 2014. Donc, autre ouvrage, Faut-il arrêter la viande? Et c'est un livre qui est sorti aux éditions Le Muscadier. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup aux auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Vous pouvez là encore poursuivre vos échanges sur les commentaires de La Tête au Carré en allant directement sur le site de l'émission.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Monsieur Barthélémy, bonjour.
Bonjour Monsieur Vidal.
Et aujourd'hui Pierre, vous nous parlez de mathématiques.
Oui Mathieu, alléluia. Un des plus grands casse-têtes des maths qui résistait à l'intelligence humaine depuis plus d'un siècle et demi vient de céder. L'hypothèse de Riemann est prouvée.
Allons bon.
Oui, l'hypothèse de Riemann, considérée comme un des défis mathématiques les plus durs à relever, au point de faire partie des 7 problèmes de millénaire. Cette conjecture s'énonce ainsi, les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont tous pour partie réelle 1,5. Voilà, c'est clair, ouais, non?
Très.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait maths en première langue, disons que prouver l'hypothèse de Riemann lèverait un coin du mystère sur la répartition des fascinants nombres premiers.
D'accord.
Alors, la démonstration était réputée impossible, mais un texte court, grandiose et pour tout dire génial, est apparu sur Internet le 24 janvier. 4 pages seulement, mais que de subtilité dedans, et son auteur, Donald Trump.
Alors, vous avez changé d'avis à son sujet ?
Ah Mathieu, prosternons-nous devant le 45e président des États-Unis et baisons ses babouches importées d'Irak, car sa démonstration est d'une implacable logique. The Donald a adapté aux maths la toute nouvelle théorie de description du réel émise il y a quelques jours par sa conseillère, Kellyanne Conway, laquelle a expliqué qu'il n'y avait pas de mensonge, mais je cite, des faits alternatifs.
Ben oui.
Alors, la théorie des faits alternatifs constitue une percée fulgurante dans l'univers de la pensée, puisque d'après l'étude signée par Donald Trump, elle permet à certaines propositions d'être vraies ou fausses en fonction du contexte et de la motivation de l'agent énonçant le fait. Avec la théorie des faits alternatifs, si on choisit bien les valeurs de C, le contexte, et de M, la motivation, on peut limiter les contraintes du raisonnement et démontrer tout et n'importe quoi et son contraire aussi.
Mais alors, ça donne quoi avec l'hypothèse de Riemann?
Eh bien, si M est le désir de prouver que cette conjecture est vraie, et si C consiste à dire qu'on se fiche pas mal de toutes les contradictions rationnelles, alors on a prouvé que l'hypothèse de Riemann était correcte, CQFD, c'est terminé. Donald Trump en profite pour montrer par la même occasion que 0 égale 1, ce qui explique qu'il y avait des milliards de personnes à son investiture, et que les cercles ont 11 côtés. Comment a-t-il réussi cet exploit? En élevant dans sa tête un mur, payé par le Mexique, qui interdit de prendre en compte l'existence des cercles n'ayant pas 11 côtés, quand vous dit que c'est génial.
C'est génial, ouais.
Alors vous aurez compris que ce texte, dont on ignore le véritable auteur, était une parodie. À l'heure où la post-vérité a enfoncé un coin putride dans le cerveau de beaucoup, à l'heure où on nous sert des mensonges par pack de 12, à l'heure où on nous vide les mots de leur sens, il était salutaire de rappeler par l'humour qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les faits.
Et c'est ce que vous faites toutes les semaines avec nous. On peut retrouver d'ailleurs cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde, Pierre, qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré à la science des avalanches qui doit s'adapter aux nouvelles conditions imposées par le changement climatique.
Et puis un nouveau numéro de la collection Voyage dans le Cosmos qui sortira demain dans les kiosques pour percer les secrets de l'univers et mieux comprendre les découvertes les plus récentes autour des neutrinos. Nous, ce sera demain. Ouais. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Dans un instant, affaire sensible très vite, Fabrice.
Oui, pour cet esprit, vous connaissez cette petite ville du Gard où en 1951, les habitants sont devenus fous, complètement fous. 5 ans sont morts en mangeant du pain, le pain maudit. Nous en parlerons avec notre invité Stephen Kaplan, historien qui s'est penché sur cette histoire et qui en a écrit un livre de 1000 pages.
Eh ben dites donc, à tout à l'heure.